Salut les filles et salut les garçons, bienvenue sur le 4-9 en transition, l'émission qui vous parle de la transition écologique dans le Maine-et-Loire, avec les acteurs de cette transition. Bienvenue aussi en cette bonne vieille année 2022 qui, je l'espère, sera riche pour chacun d'entre vous en rencontres et en transition vers une version bien plus respectueuse de notre planète. J'espère également que les échéances électorales apporteront à chacun d'entre nous les réponses aux questions que nous nous posons et que nous posons aussi à nos politiques qui ne semblent jusque-là pas très très beaucoup à notre écoute. À nous les écolos, tout neufs, les modérés, les convertis, les écolosceptiques et les purs et durs. Allez, une merveilleuse année à vous tous, à l'écoute de Radio G. Dans cette émission, nous accueillons comme deux fois par mois les acteurs qui font cette transition. Mais nous aurons aussi quelques nouvelles de nos voyageurs de l'Anjou partis en décembre avec leur camion de pompiers retapé pour vivre une aventure d'un an sur toute l'Europe. Pour ce début d'année, donc, je vous accueille dans le studio pour continuer dans notre parcours initiatique dans les pays, dans le pays merveilleux du sens et de la protection de la nature dans notre quotidien. Et pour ce faire, j'ai convié une personne qui est à la tête d'un projet ambitieux mais passionnant dans l'association du CJD, le Centre des Jeunes Dirigeants. Association régionale qui élit sa présidence tous les deux ans, si je ne me trompe pas. Il se trouve que Olivia Guilbeault a décidé de donner vie à une vision d'une économie plus durable avec la mise en place sur deux ans de mandat d'une initiative de mesure de l'empreinte carbone des entrepreneurs du CJD. C'est avec grand plaisir que je t'accueille sur Radio G pour en parler durant cette petite demi-heure. Alors, on pose les fourchettes et les couteaux et on en prend de la graine. Salut Olivia.
Salut Cathy.
Alors, d'abord et avant tout, qui es-tu, toi, toute seule, en dehors du CJD? Qui es-tu, toi, Olivia?
Moi, toute seule. Moi, du coup, je m'appelle Olivia Guilbeault, j'ai 38 ans. Je suis maman dans la vie d'un petit garçon de 4 ans. Et je suis entrepreneuse depuis 12 ans, avec mon conjoint d'ailleurs. Et dans la vie, je dirige une agence de communication et de design qui s'appelle Machin Bidule. Ouais, on aime bien, on dit, on mêle pertinence et impertinence.
C'est parfait. Et c'est quoi exactement le CJD et à quoi ça sert?
Ouais. Donc effectivement, là je représente le CJD, le Centre des Jeunes Dirigeants, qui est une association nationale. Et donc c'est une association qui compte 5700 dirigeants en France. Dans la région Pays de la Loire, on est 750. Et en fait, l'idée c'est de dire quand on devient dirigeant, on n'a pas d'école en fait pour ça. On est devenu dirigeant par mille manières. On a entrepris, on a créé sa boîte, on a repris une boîte. Mais en fait, on n'a pas appris ça nulle part. Même en école de commerce, on n'apprend pas à diriger. Et donc, l'idée de l'association, c'est de mettre en commun tous ces dirigeants, de créer un réseau où chacun va pouvoir d'abord trouver des partenaires et des gens avec qui parler, de problèmes hyper quotidiens, hyper concrets, de management, de financier, de tout ce qu'on veut, et progresser ensemble. Et donc on se forme ensemble. Et l'idée, c'est de notre but commun, j'ai envie de dire, c'est mettre l'économie au service de l'homme. Et donc il y a une vision, il y a des valeurs dans ce moment qui font que ça va très vite, qu'on se comprend très vite entre JD, c'est comme ça qu'on dit chez nous, et qu'on peut faire des grandes choses ensemble.
Très bien. Et donc, t'es donc partie pour deux années de mandat, t'as été élue pour deux ans, c'est ça?
J'ai été élue pour deux ans l'année dernière déjà, donc là, d'accord, je suis plutôt en fin de mandat en vrai, dans la région Pays de la Loire. Donc la région, c'est 750 JD, 750 entreprises adhérentes, et dans 12 sections à travers les Pays de la Loire, donc à Nantes, à Angers, évidemment, au Mans, en Mayenne, en Vendée, partout.
D'accord. Et là, en fait, chaque présidence est élue pour deux ans à chaque fois. Tu ne peux pas renouveler deux années de plus.
Non, c'est le principe au CJD. Dans tous les mandats, en section, en région, en national, on est toujours élu pour deux ans. Ce qui garantit une forme de continuité. Ce qui garantit qu'on est toujours la niaque aussi. Parce qu'en deux ans, on n'a pas trop le temps de se fatiguer ou de s'épuiser à la tâche.
Je peux comprendre ça.
Et puis, on est aussi tous bénévoles. Et mine de rien, moi, je suis dirigeante de ma boîte. J'ai une dizaine de collaborateurs. Donc, donner deux ans de mon temps à l'association, c'est bien, mais c'est important aussi de pouvoir être là dans nos entreprises.
Et donc, ce mandat qui a déjà un an et demi, pour vous deux, toi et Samuel, parce qu'au départ, Samuel devait être là, qui est le vice-président, c'est ça?
Ouais, c'est ça, on est deux. Donc, moi, je suis présidente, Samuel est vice-président, et Samuel, c'est quelqu'un de formidable qui n'a pas pu venir aujourd'hui, qui s'est cassé le dos. Mais d'ailleurs, c'est rigolo, parce qu'en fait, il bossait dans l'informatique avant, et il a changé complètement de vie, et maintenant, il est permaculteur. Et donc, il s'est cassé le dos en retournant ses poireaux, j'imagine. Voilà.
Donc, pour tous les deux, dans ce mandat, vous avez décidé de le mettre au service d'une économie durable. Enfin, si tu m'arrêtes si je me trompe. Et toutes ces réflexions, elles vous ont mené à découvrir et à faire un bilan carbone aux entrepreneurs avec qui vous, vous bossez dans Stasos. Pourquoi ce thème-là, en fait, à vous deux? Pourquoi?
Alors,
déjà,
en fait,
vous êtes réunis comment?
Ouais, on prend notre mandat en 2019, du coup, à un moment où on parlait déjà pas mal de la planète, mais pas suffisamment selon nous, parce que en fait, Samuel et moi, on a vraiment très en tête que c'est l'enjeu des entreprises et des entrepreneurs actuellement.
On va devenir copains.
et malgré le fait que ce soit l'enjeu, je sais pas quel pourcentage de la population dirigeante est... serait d'accord avec ça, enfin de dire que c'est l'enjeu prioritaire, mais je pense que c'est pas la majorité. Et donc il y a énormément à faire pour à la fois convaincre du besoin de se transformer et puis après du comment on se transforme. Et donc c'est ce qu'on a décidé de faire dans notre région. Donc le plan, l'idée, c'est comment on les aide à se transformer. La première étape, c'était de faire un peu de pédagogie en fait et de leur expliquer comment, pourquoi il fallait se transformer. Et donc on a fait faire à tous les dirigeants qu'ils voulaient de la région la fresque du climat. C'est un atelier qui existe. Il y a plein de fresqueurs. On appelle ça, c'est une association en soi qui organise ces ateliers. Et d'ailleurs, si les gens sont intéressés pour le faire, je suis sûre qu'il y en a ici dans.
Raconte-nous un petit peu ce que c'est.
Ouais, l'idée c'est d'avoir une représentation visuelle de pourquoi c'est la cata en fait.
Et ce qui est vachement intéressant parce que sinon on s'en rend pas compte.
Voilà. Et en fait on remonte le fil, donc on sait que c'est la cata, mais on remonte à ok, ça vient d'où, et on comprend techniquement et de manière. Moi je suis pas une scientifique, hein, j'y connais rien, mais je crois les scientifiques par contre. Mais, et donc tous ces mécanismes de rétroversion, de CO2, c'est des choses qui peuvent paraître hyper abstraites, mais en fait c'est un jeu de cartes, hein, qu'on pose sur une table, et donc à la fin c'est la cata. Et puis au début, on remonte. Et on remonte à, ok, c'est à cause de quoi? Puis qu'est-ce qui va se passer? Puis ça fait comme ça une espèce de chaîne du pire, hein, faut pas se mentir. Et on en arrive à la conclusion, parce que c'est quand même l'idée, que bah, tout ça, ça reste la responsabilité de l'activité humaine. Or, l'activité humaine, c'est nous qui la gérons en tant que citoyens, en tant que, voilà, n'importe qui fait ça. Mais en tant que dirigeant, on a quand même une responsabilité supplémentaire, parce qu'on produit des choses, et qu'autour de nous, on a de la puissance d'action. On a nos collaborateurs sur qui on peut avoir de l'influence, on a nos clients sur qui on peut avoir de l'influence, et parfois on a les clients de nos clients sur qui on peut avoir de l'influence. Et donc et puis nos fournisseurs, on parlait d'eux, et donc on est mille fois plus à la fois responsable et capable de changer les choses. Encore fallait-il s'en rendre compte. Donc ça, c'était vraiment l'exercice de la fresque du climat. Il y a encore des JD d'ailleurs qui sont en train de faire l'atelier. Et vraiment, j'incite tout le monde à le faire. Même mon papa, il est fresqueur maintenant. Il fait des fresques du climat.
Bien.
Et voilà. Et donc, on en est arrivé là. Et puis là, généralement, on se sent pas super bien. C'est pas la meilleure soirée de notre vie après une fresque du climat, parce qu'on se rend compte quand même que, bah voilà, c'est grave. Tout simplement, c'est grave. Et puis, l'idée de cette pédagogie, c'est aussi... Moi, j'ai été marquée par ce qui s'est passé à la Convention économique pour le climat, où finalement, on a rassemblé tout un tas de gens qui ne sont pas les premiers écolos de France. On ne les a pas choisis pour ça. Mais par contre, on les a mis dans une salle. On a mis des scientifiques qui sont venus expliquer les choses de manière factuelle, sans parti pris.
Sans parti pris.
Et ces gens-là sont devenus forcément écolos. Parce que, et même, ils disaient, mais c'est dingue qu'on ne le sache pas, et c'est dingue que ce ne soit pas plus dit, et c'est dingue qu'on ne bouge pas plus. Bah ouais les gars, ils ont 100% raison, mais parce que eux ils ont eu accès à une information auquel finalement à laquelle plein de gens n'ont pas accès. Donc l'idée c'est de donner cette information, et d'ailleurs je pense qu'il faut qu'on continue par plein d'autres manières. On a plein d'idées en tête, mais on a des trucs sur la jeunesse par exemple. Le mois de mars au CJD c'est axé jeunesse, on a très envie de former la jeunesse à ces enjeux là même s'ils sont au courant, hein. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde a quand même entendu parler du dérèglement climatique.
Oui, mais tu mets pas tout en perspective, hein, clairement, je pense, hein, vraiment. Bon, après c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, mais
ouais, il y a une différence énorme entre savoir qu'il y a un problème et prendre conscience du problème. Moi par exemple, j'ai un truc sur le réchauffement climatique où on dit 1 degré, ouais, c'est pas si grave que ça. Sauf qu'en fait, si on prend une image, 1 degré, si on le prend à la température du corps humain et qu'on se dit la différence entre j'ai 37 et je suis en pleine forme, j'ai 38, je suis pas au top, je rentre chez moi, j'ai 39, je suis vraiment malade, et j'ai 40, je suis
au bout de ma vie.
Je suis au bout de ma vie. Et bah, c'est ça en fait qu'on est en train de faire vivre à la planète, quoi. Ce degré-là, il est capital. Il est capital parce que c'est la différence entre un monde qu'on maîtrise, où on va réussir à encore vivre à peu près correctement, on va encore réussir à produire, nos boîtes elles vont tourner, ou alors c'est vraiment la cata et tout le monde ne fait plus que ça et tout le monde court dans tous les sens. Et c'est quand même ça qu'on veut éviter. Donc il faut donner des images et il faut faire de la pédagogie. Ça, c'était le point de vue fresque du climat, c'était notre première année. Et puis une fois qu'on a pris conscience des enjeux, du coup la question qui se pose en permanence, c'est bon, maintenant on fait quoi? Et c'est juste, quand on en arrive là, déjà, on a réussi un premier combat, mais en fait, on n'a rien résolu. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner les entreprises dans ne pas se jeter dans le premier chantier venu, parce que, par bonne volonté, mais parce qu'en fait, finalement, il faut savoir où est-ce qu'on peut avoir de l'impact dans son entreprise. Et donc, c'est ça le bilan carbone. C'est calculer à un moment où sont mes défaillances, où est mon risque. Et où est-ce que je peux du coup avoir de l'impact positif?
On fait une première pause musicale avec Je veux un enfant de Brigitte. Et on vous laisse écouter ça sur Radio G et on en reparle juste après.
Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux dans mon ventre sentir le sang, la vie dedans. Je veux un enfant. Passe 28 jours, les doigts croisés, j'attends mon tour. Mais sur mes dessous, le sang revient comme toujours. Je me sens bien seul, je ferme ma gueule quand autour de moi toutes les cigognes frappent aux portes sans passer par là. J'ai envie d'hurler, j'ai envie de pleurer, je m'accroche à ton cou. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Qu'est-ce qu'ils ont les autres de plus que nous? Je me fous des discours, des mots qui rassurent, des professionnels. Connaissez-vous la peine d'une femme qui rêve d'être mère? La belle, je sais faire, la conne, je sais faire, la cuisinière aussi. La fille, je sais faire, la pute, je sais faire, mais pas donner la vie. Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux dans mon ventre sentir le sang, la vie dedans. Je veux un enfant.
Olivia, pourquoi ce choix musical?
Ouais, c'est un choix. Alors, la chanson, quand je l'écoute, moi, je pleure encore, mais ça va mieux.
Elle est belle.
Elle est trop belle. Et elle est courageuse. C'est pas souvent qu'on entend parler de ce sujet-là. En fait, c'est un choix parce que j'ai l'impression, à chaque fois que je parle avec des gens qui sont engagés pour l'écologie, c'est des gens qui ont un déclic. Il s'est passé quelque chose dans leur vie à un moment qui leur a fait jding, ah ouais, en fait, c'est ça le sujet, et puis ça devient le seul sujet. Et moi, le sujet, c'était ça, en fait. C'était qu'à un moment, je me suis rendu compte à 30 ans que, bah non, à force de pollution, de malbouffe, de pesticides et de tout ce bordel, et bah non, mon corps, il pouvait pas faire d'enfant. Et celui de mon homme non plus, d'ailleurs. Et en fait, c'est un scandale. Enfin, ça m'a scandalisé. Et ça m'a scandalisé moi, et ça m'a scandalisé d'autant plus d'apprendre que ça concernait 20% des couples. En France.
C'est beaucoup, hein.
Et je trouve ça incroyable. Je trouve qu'en plus, c'est un sujet qui est douloureux, dont on parle pas beaucoup. Bref, professionnellement, c'est compliqué aussi. Enfin, bon, voilà, il y a plein d'aspects là-dedans. Et moi, c'était mon déclic, en fait. C'est de se rendre compte que finalement, mon environnement, il avait là un impact hyper concret sur mon corps, sur ma vie, qui m'empêchait juste de faire le truc le plus important de ma vie, quoi. Et donc, alors, coup de chance, il y a quand même des médecins, des scientifiques qui ont inventé des trucs de dingue. Et donc, je suis maman et j'ai réussi à être maman. Et c'est le plus beau cadeau de ma vie. Et c'est mon combat aussi aujourd'hui. Mon combat, c'est pour lui, quoi. C'est pour mon petit Milo et c'est à lui que je pense tout le temps. De se dire, mais quelle vie on lui réserve, quelle vie on lui prépare, quel choix il aura, quel bonheur possible il aura. Voilà, c'est ça c'est pour ça que je me bagarre, en fait.
Bon, alors, ce choix de chanson, c'était parfait. Revenons-en à nos moutons. Enfin, même si on parlait pas vraiment de moutons, mais bon. Comment ça se passe, ou comment ça va se passer, donc, du coup, la suite des événements, après avoir fait des ateliers un petit peu pour apprendre ce que c'était, de quoi on parlait exactement, en écologie, en réchauffement climatique, etc. Enfin, tous ces dérèglements et toutes ces choses qui avancent sans qu'on ait vraiment l'information. Vous êtes passé par quelle étape après pour vous dire il faut qu'on fasse le bilan carbone des boîtes ?
En fait, on est passé par plein d'étapes. On a cherché des assos, des systèmes. En fait, il faut se dire ça, hein, les entreprises, elles sont de bonne volonté, mais elles sont un peu perdues. On prend un imprimeur et on se dit oh ouais, l'imprimeur c'est quand même un salopard parce que vraiment il pollue la planète avec son papier. Bah ouais, mais le gars il emploie 100 personnes, au quotidien il fait de son mieux pour avoir du papier FSC, blablabla, et on lui dit que c'est un connard de pollueur, quoi. Bah c'est un peu dégueulasse, et donc en fait c'est bien tout ça qu'il faut réussir à transformer, et c'est pas avec un coup de baguette magique qu'on va y arriver. Et donc c'est en fait, on a travaillé avec le CJD national pour le coup, qui cherchait un outil aussi et qui s'est entouré de spécialistes du bilan carbone, parce que c'est quelque chose, c'est pareil, hein, c'est
spécifique. Oui,
ouais, c'est ça, on s'improvise pas bilan, enfin on peut pas calculer comme ça son bilan carbone tout seul sans avoir de données techniques pratiques. C'est hyper technique, mais et du coup on a, grâce à ça, on a réussi à sortir un outil qui est gratuit pour les entreprises du CJD, qui est mise à disposition des JD. Faire son bilan carbone pour une entreprise, ça peut coûter des milliers d'euros, en fait, parce que c'est un vrai gros boulot. Alors là, je dois préciser que ce n'est pas un bilan carbone au sens formel du terme, c'est une estimation carbone. Parce qu'effectivement, on fait en quelques heures ce que des professionnels font en des jours,
oui,
et des semaines.
Si tu fais un audit sur le sujet, ça peut être très long et très pointu.
Et c'est très bien, hein, d'aller dans le pointu pour certaines entreprises, il faut absolument qu'ils le fassent. Mais
faut
en première approche...
les moyens,
ouais,
déjà.
Nous, on dit, en fait, si on prend une carte de France, il y a mille manières d'avoir une image de la France. On peut avoir la carte IGN, là,
oui, c'est ça.
IGN, où on a tous les petits ruisseaux et tous les petits chemins de randonnée. Et puis la carte un peu vue plus loin qu'on a à la météo. Et puis, nous, on dit, on veut juste un hexagone, quoi. Mais déjà, avoir un hexagone, c'est incroyable, parce qu'on a une idée de quels sont les trois facteurs d'émission les plus importants, d'émission de CO2, les plus importants dans mon business à moi. Alors moi, je suis dans les services, j'ai fait mon bilan carbone, hein, mais ça doit faire 9 tonnes par an. Autant dire que c'est pas moi qui vais sauver la planète. Franchement, quand j'aurai trié mon papier et que je prendrai le train, j'aurai fait ce que je peux faire. Par contre, au CJD, on a toutes sortes d'entreprises. On a des entreprises de services, évidemment, mais des industriels, des entreprises dans le tourisme. Et je pense, par exemple, à une JD qui tient des campings, qui a 9 campings, je crois, en France, qui a fait cet exercice. Et hyper rapidement, elle nous dit « Ah ouais, en fait, c'est dingue. Moi, je croyais que mon impact, c'était, par exemple, les déchets qu'on traite dans les campings. » Parce que, les campeurs, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et puis, on voit
c'est
bien
qu'il n'y a pas beaucoup de tri, il n'y a pas de composteur.
Il n'y a pas beaucoup de tri, on est en vacances,
temps,
quoi. Ouais. Hein. C'est freestyle. Et en fait, non, pas du tout. Son impact, c'est les trajets que font les touristes pour venir dans son camping.
Et oui, ils n'habitent pas 10 km à côté.
Et non, forcément, puisqu'ils sont en vacances. Donc, ils ont traversé la France en voiture avec le coffre plein, la caravane, le machin. Et c'est ça, son impact. Et moi, je trouve ça dingue et génial. Parce qu'une fois qu'on sait ça, et alors moi, mon boulot à côté, c'est la créativité. Je bosse dans la créativité. Et je trouve que d'avoir ce défi-là, en fait, de se dire, OK, maintenant, mon défi, c'est ça. Comment je fais en sorte de diminuer le bilan carbone des gens qui viennent jusqu'à mon camping en vacances? C'est génial comme défi. Parce que de ça, on peut créer 10 000 trucs. Je ne sais pas ce qu'elle va faire, mais on peut imaginer des systèmes de voitures qu'elle va mettre au service de ses campeurs dans son camping pour qu'ils puissent venir en train. Elle peut mettre des navettes. Elle peut faire des campings urbains où elle va aller près des villes. Elle peut tout imaginer. Mais du coup, elle sait sur quoi agir. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, jusque-là, les gens ne savaient pas sur quoi agir en toute bonne foi. Et maintenant, ils savent. Ça change tout.
Ben oui, c'est clair, ça change tout.
J'ai un producteur de volailles qui
cool.
produit des volailles fermières, hyper engagé pour le bien, pour ses animaux, pour la qualité de la viande qu'il fournit, et qui nous dit de la même manière, lui finalement, son impact, c'est le chauffage dans ses entrepôts. Oui, mais ses poules, quoi.
Et oui, bien sûr.
Oui, alors après, on peut se dire, merde, les poules, il faut quand même qu'elles aient chaud. Moi, je connais pas le bien-être des poules. Mais en tout cas, OK, maintenant, il sait que s'il isole ses bâtiments et qu'il travaille là-dessus, il va avoir un super impact. Enfin, c'est assez subventionné, ce genre de travaux, donc il n'y a pas de difficulté trop.
En même temps, à partir du moment où tu le sais, ça change déjà complètement les choses. Je veux dire, si tu le sais pas, tu risques pas de faire du changement. Je veux dire...
Et c'est toujours pareil, en fait. On peut faire des choses, évidemment, et tout le monde a envie de faire des choses, quoi. Mais agissons là où il y a de l'impact. Et c'est vrai qu'après, je dis pas que c'est des chantiers faciles, hein, nécessairement. Quand je dis à la fille qui gère des campings, c'est sûr que ça aurait été plus facile de mettre des bacs de tri, qu'elle a déjà d'ailleurs, hein, dans mes campings, c'est sûr, ou d'acheter un truc qui va... Non, ça marche pas comme ça. Ça vient effectivement bouleverser nos modèles économiques, ça vient bouleverser notre manière de faire, ça vient complexifier le quotidien, prendre du temps. Et c'est pour ça, après, que stratégiquement, il faut en faire une stratégie, quoi. Parce que si on en fait un petit truc à côté, on se dit, tiens, quand on aura deux minutes, on pensera à réfléchir à l'écologie, bah, en fait, il se passe rien, ou pas assez.
Alors, Olivia, tu ne le sais pas, mais dans cette émission, on parle de transition écologique à tous les niveaux et de toutes les manières. Et nous avons reçu, il y a quelque temps, sur Radio G, un couple, Mélanie et Ben, qui avaient décidé de partir pendant un an dans leur camion de pompiers, aménagé, faire le tour de l'Europe pour voyager, mais aussi découvrir ou redécouvrir les savoir-faire d'autres personnes. Ils ont tout réalisé eux-mêmes dans ce camion à partir de matériaux de récupération. Ils voulaient aller faire du woofing dans toute l'Europe. Ils nous envoient une carte postale mécanique, un petit peu, aujourd'hui, pour nous raconter leur aventure dans une séance qui s'appelle « Va voir ailleurs, si j'y suis ».
Hello la transition, c'est Benjamin et Mélanie. Donc on part à travers l'Europe avec notre camion de pompiers, Marcel. Il est de 1992, avec une vitesse de pointe environ 80-90 km/h. Alors on est parti début décembre, on a eu des problèmes mécaniques, ça nous a fait perdre une semaine. Et ensuite, problème électrique avec notre batterie annexe pour avoir l'électricité à l'intérieur du camion. Et on pense recevoir la batterie d'ici une semaine. Donc, on devrait commencer le voyage bientôt. Donc, on est sur un petit faux départ. Là, en ce moment, on est en Dordogne avec des amis pour passer la semaine du Nouvel An. Et d'ailleurs, on est avec un couple d'amis là, qui voyagent depuis 4 mois et on va leur laisser la parole.
Bonjour, nous c'est Camille et Victor. On voyage en camion depuis bientôt 4 mois dans un camion qui ressemble beaucoup à celui de Mel et Benji. Et en ce moment, il est en Grèce et malgré notre bilan carbone, on a décidé de revenir en France pour passer les fêtes en famille et puis passer une semaine de vacances avec nos amis.
Prendre le temps, c'était vraiment important pour nous. À titre d'exemple, ça fait 7 semaines qu'on est dans une région qui fait la taille de l'Ovéade, on est dans le Péloponnèse en Grèce. Et donc tous les voyageurs que nous rencontrons, eux, le Péloponnèse, ils le font en approximativement une à deux semaines. La randonnée en Grèce, elle n'est pas super, c'est pas super facile.
C'est pas du tout pareil qu'en France. En France, on a se rendre compte que
énormément
c'est
de chemins,
hyper bien
balisé.
Enfin, il y a plein de chemins. C'est en fait, il y a des chemins qui ont été créés. Ils sont pas là, ils sont nulle part, quoi. Alors qu'en Grèce, il y a plein de montagnes, de monts qui sont là, mais inaccessibles. Parce qu'il n'y a pas de chemin, qui ont été créés par l'homme avant.
Ou alors on suit le chemin des chèvres.
Ou alors on suit le chemin des chèvres. Mais des fois, c'est pas trop où on atterrit, quoi. Mais il ne faut pas non plus donner trop d'importance à se mettre dans un endroit qui est super, parce que des fois, c'est le soir.
Il fait nuit tôt.
Il fait nuit.
C'est l'hiver.
Ouais, c'est l'hiver.
Il va faire froid, donc on sera forcément un petit peu bloqué dans le camion. Donc être dans un endroit magnifique ou être dans un endroit pratique, et ben souvent faut qu'on soit, on a découvert malgré nous qu'il faut être dans un endroit plutôt
pratique parfois pratique, et pas parfois. En tout cas passer des heures à trouver l'endroit magnifique.
Par contre, quand on tombe sur un super endroit par hasard, voilà, ben c'est génial.
J'apprécie vraiment, c'est on a le camion dans un endroit qui est super beau, on se réveille, il fait super beau, on ouvre les portes du camion, on reste un peu dedans, bois le café, hop, après tu vas te baigner direct. On profite un peu au soleil, on range, et puis là on va se balader ailleurs, on se fait une petite rando, tout ça. Enfin, c'est des choses simples mais qui font que on sait qu'on est en voyage et c'est super chouette, quoi.
C'est une vue qui change tout le temps et il y a un confort en camion qui est énorme. Donc on a la vue et le confort, c'est quand même. Quand même des beaux moments, quoi.
Bah, trop cool, merci pour le témoignage et bientôt ce sera nous sur les routes, je l'espère. Et puis va voir ailleurs si j'y suis.
Voilà, bon vent à vous deux et suite au prochain épisode. Olivia, revenons-en à notre printemps en transition pour nos entreprises et leur bilan carbone. Quelle est l'étape suivante après le bilan ?
Et bah, après le bilan, c'est là que tout commence. Imaginons, on a identifié nos trois pires facteurs d'émission. Ce qui est génial, c'est que dans notre mouvement, on est quand même, on est hyper nombreux. Et donc, on peut tout à fait contacter n'importe lequel des dirigeants du mouvement et lui dire, toi, t'as fait comment ? Et toi, t'as trouvé des solutions ? Et toi, t'en es où ? Et donc, ils peuvent forcément échanger entre eux et trouver des solutions. Et là, ça va commencer. c'est quelque chose voilà, qui va arriver. Et effectivement, il faut encore qu'on réfléchisse à comment on peut accompagner ça, le faciliter, donner des solutions, parce que c'est toute une galaxie en fait, là, d'acteurs qui peuvent intervenir pour le financier, pour des associations qui vont... donc il faut, je pense, trouver des outils pour faciliter ça. L'étape d'après pour nous la JD, c'est de repenser la manière dont on calcule notre performance. En gros, aujourd'hui, le seul outil qu'on a et qui nous dit si on a été bon ou pas dans l'année, notre bulletin de notes, c'est notre bilan financier, qui nous dit waouh, génial, vous avez gagné plein de sous, vous êtes des warriors, ou oh là là, les gars, c'est pas terrible, ça va pas cette année. Mais on a que ça pour savoir si oui ou non on est performant.
C'est très sociétal aussi.
Ouais,
cette façon de voir le bilan, c'est...
Eh ben oui, c'est historique, mais en fait, finalement, on ne s'est jamais vraiment penché sur le sujet de est-ce qu'on ne peut pas analyser la performance de l'entreprise sous d'autres angles, l'angle naturel, l'angle de la planète, l'angle de la nature, et se dire c'est quoi mes performances d'entreprise envers la nature, et l'angle humain, c'est quoi mes performances envers les humains qui bossent pour moi, les humains qui consomment mes produits. Et ça s'appelle la comptabilité en triple capital. Ça paraît un peu... peut-être complexe comme ça, mais finalement c'est très simple. C'est évidemment, on a un bilan financier, mais on a un bilan naturel et on a un bilan humain. Et ça, pour moi, il y a plusieurs vertus. Il y a une vertu géniale, c'est que les dirigeants, c'est des gens qui veulent gagner. C'est comme ça, et tant mieux en fait, parce que et du coup, ils adorent les défis. Et si on dit à un dirigeant, bah tiens, demain tu peux progresser, non pas sur ton chiffre d'affaires ou sur ton résultat, mais sur ton bilan naturel ou sur ton bilan humain, ils vont se battre exactement de la même manière. Parce que par contre, c'est pas des gens, ou c'est pas que des gens qui sont appâtés par l'argent. C'est pas vrai ça. Et les dirigeants, ils se battent autant pour l'argent et pour la survie économique de leur entreprise que pour le bien-être de leurs collaborateurs, pour le bien-être des gens qui consomment leurs produits, pour autour d'eux, tout juste là autour d'eux, que ça se passe bien pour leur ville, pour leur territoire. Enfin, faut discuter avec des dirigeants, mais c'est ça qui les anime en fait. Et donc, si à un moment on leur met sous les yeux et qu'on voit avec les banques de réussir à créer un bilan qui valorise toutes ces actions-là et qui leur donne du pouvoir, en fait, vraiment, c'est-à-dire...
De l'ampleur.
Par exemple, moi, je me dis, aujourd'hui, je suis bénévole, toi aussi, pour faire plein de trucs. On ne gagne pas un copec avec ça. Par contre, je pense qu'on fait des choses bien pour la planète. Eh bien, est-ce que c'est normal ? En vrai, l'idée, ce serait qu'on valorise d'une manière ou d'une autre ce qu'on fait là. Ce qu'on fait là ou ce qu'on fait dans notre quotidien. Mais même, voilà, si on le prend comme particulier, on se rend compte de ça. En fait, c'est dingue, tous les gens qui donnent du temps bénévolement, tous les acteurs, tous les activistes qui font plein de choses. Eh bien, en fait, c'est pas eux qui ont le plus de retours sur ce qu'ils font. Et c'est pas normal. Et donc, pour une entreprise, finalement, c'est pareil. C'est de dire, à un moment, il faut calculer, montrer, démontrer aussi qu'une entreprise qui a des émissions carbone qui sont hyper élevées, c'est une entreprise qui est à risque. Parce qu'il y a bien un jour, aujourd'hui la tonne de carbone, j'ai plus le chiffre, c'est autour de 100 euros je crois qu'elle se compte. Mais si on imagine qu'on prend notre bilan, moi j'ai fait 100 000 euros de résultats cette année, génial, je suis une championne. Sauf qu'en fait j'ai un bilan carbone où je sais pas ce que je fais comme activité, mais j'ai tout explosé. Et ben je multiplie ça par le prix de la tonne de carbone, je l'enlève de mon bilan, et ben tiens, je suis à zéro, c'est emmerdant en fait. Parce que je pensais avoir gagné tout, mais en fait non, si demain la tonne de carbone a vraiment de la valeur, ce qui est quand même en train d'arriver. À un moment, les taxes carbone, les trucs, on en a quand même suffisamment entendu parler. Il y a bien un moment, on va arriver à le faire passer, ce truc-là, et ce sera très bien. Et bien ça va venir pénaliser les entreprises qui émettent énormément de carbone. Et donc, il faut l'anticiper, parce que demain, ça va arriver, puis tout le monde va hurler en disant « c'est pas juste, on n'est pas prêt ». Ben, il faut se préparer. En tant que citoyen aussi, ou que particulier, parce que le bilan carbone, là je parle pour les entreprises, mais en fait on peut faire son propre bilan carbone personnel. C'est quand même intéressant de le savoir et de manipuler ces chiffres du carbone qui peuvent paraître un petit peu abstraits. La moyenne d'un citoyen français, c'est 11 tonnes de carbone par an, ce qui est trop élevé, parce que les accords de Paris qui ont été signés ont déterminé qu'en 2030, il faudrait que chaque Français consomme 2 tonnes de carbone par an. Ça fait quand même moins 80%, ça va pas se faire...
On est très 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 loin.
Ça va pas se faire comme ça, donc ça implique plein de choses. Et on peut calculer, il y a plein d'outils sur le site de l'ADEME, des trucs MyCO2, je crois que ça s'appelle.
Et puis c'est l'affaire de 10 minutes, quoi.
Ouais, c'est l'affaire de 10 minutes, et ça fait du bien. Ça a quoi comme impact ? Parce que, enfin, ça fait du bien aussi de se dire, ouais, ça change les choses. Et de se donner des objectifs, on peut le faire en début d'année, on a droit. De se donner des bonnes résolutions climat et de se dire, allez, cette année, je prends plus l'avion, j'achète plus de fringues neuves.
C'est parfait. Eh ben, j'espère que le travail aboutira et qu'il aboutira à un véritable changement en profondeur pour ces entrepreneurs de tous horizons. Merci à toi, Olivia, d'avoir fait ce chemin jusqu'à